Vous savez ce que c'est autour de la table, le littré? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est comme dictionnaire?
Ils vous regardent en faisant des signaux.
Non.
Non.
Alors, il est sur iPhone.
Ah, Elodie Maillot a un tuyau.
D'accord. Mais alors, on peut même le trouver en papier, figurez-vous, pour une vieille demoiselle comme moi. Alors, Isam, je vais vous raconter ce que c'est. C'est le dictionnaire de la langue française mythique. Jean d'Ormesson disait carrément que c'était le roman de la langue française, puisque ça peut se lire comme un roman. Il y a 120 000 entrées, 120 000 mots, 400 000 pages, et chaque mot est décrit de façon étymologique. Et en plus, on a pris des exemples de la littérature française pour illustrer l'emploi de ce mot. La personne qui l'a fait a mis 13 ans pour l'écrire, de 1859 à 1872. Et ce soir, justement, je vais vous dire comment, parce que je vais vous parler de comment j'ai fait mon dictionnaire d'Émile Littré, qui a donc donné son nom à ce dictionnaire.
À ce making-of, quoi.
Ce making-of complètement fou. C'était une entreprise absolument folle, un travail de titan. Et en fait, il faut lire ce livre, parce que ça donne un espoir incroyable. Ça montre que tout est possible, ou... D'ailleurs, peut-être, non, ça vous désespère, parce que ça montre que on n'a absolument pas le courage d'Émile Littré, on ne fera jamais ce qu'il a fait. Je ne sais pas, à vous de le lire comme vous voulez. Mais c'est fascinant de voir comment un seul homme, avec moins de 10 collaborateurs, a pu rédiger la référence des dictionnaires de la langue française et en voir la fin de son vivant. Parce que les grandes entreprises comme ça, souvent, on ne peut pas les terminer. Et alors, Émile Littré, il faut dire que déjà, à sa naissance, déjà, il est très doué.
Non, mais si ça commence à sa naissance.
Déjà, alors bon, on lui rajoute quelques années après sa naissance quand même. Alors, il parle anglais, allemand, italien, latin, grec en autodidacte. Et il compose des vers dans toutes ses langues. Et puis après, il prend quelques cours de sanskrit quand même, un peu pour être chic. Il fait médecine. Et puis finalement, il a pas trop envie d'être médecin. Alors, il donne des cours de latin et de grec pour se faire un peu d'argent de poche. Il écrit quelques articles savants. Pendant les 40 premières années de sa vie, il prend son temps.
Donc, c'est quelqu'un qui n'avait pas la nécessité de gagner de l'argent.
Ici, si, si, puisqu'il donnait des cours de latin et de grec et il collaborait à des revues.
C'est lucratif, ça. Hein.
Ouais. Il faut en donner beaucoup.
C'était dans les grandes familles.
Ah oui, oui, exactement. Donc, il avait foi en l'esprit humain, lui. C'était un homme des Lumières, un positiviste, un disciple d'Auguste Comte. Vous allez voir pourquoi ça compte tout à l'heure. Pardon, j'ai même pas fait exprès de faire ce jeu de mots absolument nul.
C'est le jeu de mots du lundi.
Le jeu de mots qu'on veut rembourser immédiatement. Et donc, il découvre Auguste Comte à 40 ans. C'est le point essentiel de sa vie. Il devient son ami. Et là, dans le livre, il raconte, parce qu'à 40 ans, il va se passer plein de choses incroyables. À plus de 40 ans, il a la médecine grecque, il prépare une édition d'Hippocrate, ça l'occupe entièrement. Mais il veut tout savoir, il a une curiosité insatiable et une ténacité à toute épreuve. Il a même envisagé, quand il était vieux, d'écrire une histoire universelle dont il avait déjà le plan, mais il était trop malade. Une histoire universelle du monde entier, de tout ce qui a toujours existé. Alors il lit tout le temps, il est passionné par l'étymologie, les préfixes et les suffixes, les mal aimés. Parce que moi, les préfixes et les
suffixes... Il était marié ou pas?
Oui.
Il avait une vie, quoi.
Il avait une vie, mais vous allez voir, vous allez voir. Et en 1841, il dit « Je veux faire un dictionnaire étymologique parce qu'on n'en parle pas assez dans la vie. » Alors là, Monsieur Hachette, vous connaissez, c'est obligatoire. Oui. Monsieur Hachette, le grand libraire et ami du collège, est emballé, il lui donne 4000 francs. Extraordinaire somme. Et alors là, Littré, il va prendre les 4000 francs en se disant « Oh là là, j'ai un projet extraordinaire, un dictionnaire fou à faire. » Puis il va passer 5 ans à rien faire.
Voilà, ça, il procrastine. C'est le stress du départ, en fait.
Il procrastine, puis il perd sa mère quand même, hein, faut que je vous le dise. Bon, le chagrin, deuil et tout ça. Puis d'un coup, il culpabilise. Il a rien fait pour le dictionnaire, 4000 francs pour rien. Monsieur Hachette le réveille et ajoute, non seulement tu vas faire un dictionnaire étymologique, mais je veux aussi que ce soit historique et grammatical. Voltaire a déjà eu ce projet, mais personne ne l'a fait, vas-y. Alors, bon, Littré angoisse pendant 24 heures, c'est un fardeau, il se dit, mais je vais mourir sans en avoir vu la fin. Finalement, il accepte. Et là, badaboum, je saute des années, nous sommes en 48, révolution de février, la France passe en Deuxième République, il perd toutes ses économies, Littré. Mais Louis Hachette, qui se prend du sang dans la figure quand il se balade dans la rue, parce qu'il y a des barricades dans la rue, j'essaie de vous faire l'ambiance de la Révolution,
oui, c'est sympa, c'est
continue
beau.
Quand même l'entreprise. Parce que c'est des hommes de courage. Ils sont plus très jeunes, ils redoutent de mourir avant. Mais là, je vous parle d'hommes admirables, chers amis, comme il en existe peu. D'ailleurs, commençons par la fin. Imaginez qu'on dise de vous cela. Là, je vais vous faire la lecture par Isam d'un discours de Léon Laurent Pichat, poète et homme politique, ce qu'il a dit sur Littré après l'apparition du dictionnaire.
Un homme illustre de notre temps, dont l'héroïsme moral est devant nous comme un grand exemple, entreprit une tâche immense sans songer au jour que cette vie lui réservait. Il commença son œuvre vers les années du déclin. Il y travailla 15 ans, et l'impression de l'ouvrage dura peut-être autant d'années encore. Le succès couronna la tentative, il éleva un monument national et il peut se reposer maintenant en considérant avec sérénité l'édifice qu'il a consacré à la langue française.
Merci beaucoup pour cette très belle lecture.
Magnifique.
C'est rare de pouvoir se reposer à la fin d'une vie. Souvent, on n'a pas tout fait. Bon, alors, comment il fait Littré, là? Parce que, comme
ben
on vous raconte des choses,
demander.
C'est l'apéritif, là. Alors là, hop, on rentre dans le corps du texte. Il prend les textes les plus célèbres de chaque siècle, du 12e au 16e siècle inclus. Il a des petites fourmis travailleuses dans son atelier qui lui font des fiches, un mot sur une fiche, plusieurs exemples dans la littérature. Pendant 3 mois, plusieurs heures par jour, il va classer les auteurs sur des petits carrés de papier avec le nom, le titre, la page, le chapitre, rangé par ordre alphabétique. Il est angoissé, il perd du temps, il fait des fausses routes, recherche vaine, il est perfectionniste.
Là, il a toujours sa femme ou elle est partie ?
Non, mais elle est là du début à la fin, sa femme. Et alors là, il a peur, il recule le commencement de l'impression, il a trop peur. Et puis, en plus, il commence par la préposition « à ». Alors là, je vous raconte pas la préposition A, lisez le littré, parce que il s'en passe vraiment des vertes et des pas mûres. C'est la plus décourageante. Alors il se dit, bon, je vais peut-être me résigner à la facilité. Mais non, il a honte d'avoir pu y songer. Il frémit en se relisant. Il voit les erreurs qu'il a fait. Chaque semaine, il prépare des copies en avance. Et les ouvriers, quand ils voient ça arriver à l'imprimerie, ils veulent une augmentation. Parce qu'ils voient qu'il y a du vieux français. Alors, c'est pas possible.
Bah, ça l'arrange pas, d'autant qu'il a plus d'économie. Hein.
Non, mais non, et les ouvriers, vous imaginez, pour déchiffrer ça, ça coûte un prix terrible. Et là, badaboum, c'est quand on fait un flash dans le futur d'un coup, il y a la guerre de 70. Ça lui fait perdre
un an. Oh là là,
ça
recommence.
Ça lui fait perdre un an. Et là, badaboum, une lecture, Élodie. La guerre de 70.
En 1859, j'avais près de 59 ans. En 1872, 71. Cet espace de vie humaine, loin à tout âge, l'est relativement bien plus à la fin de l'existence. Pourtant, je passais sans encombre et sans ralentissement. Mais l'inclémence du sort sévit par les événements extérieurs.
La guerre.
La guerre de 70
ta.
Me fit perdre un an tout entier. Je me rends cette justice qu'en présence des dangers et des désastres de la patrie, je ne conservais aucune pensée pour l'interruption ou la ruine, car le pire était en perspective de mon œuvre. Mes préoccupations étaient ailleurs. Hippocrate, qui fut ma première étude, nous apprend qu'une douleur plus forte amortit une douleur moindre. La douleur moindre fut le dictionnaire, et elle fut amortie.
Merci. Et alors là, comme Monsieur Littré ne peut jamais renoncer à rien, il fait tout en même temps, il devient membre de l'Assemblée nationale, comme si ça suffisait pas pendant les années 70, qui s'est installé à Versailles. Il assiste à des séances, il perd du temps, il lui reste plus que les matinées, les nuits, les dimanches et les vacances de l'Assemblée.
C'est terrible.
Et s'il se relâche à un seul moment, il perd son avance. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il est chez lui, vous me demandez s'il avait une femme. Eh bien oui, il va prendre comme aide sa femme.
Ah oh, bah dites donc.
Qui est en plus maladive et débile. Je le cite, maladive et débile. Et alors attention, débile, ça veut dire faible, hein, au vrai sens. Et sa fille, parce qu'elles sont là à n'importe quelle heure sous la main, c'est super.
Et puis elles sont gratuites, je le rappelle.
Et ben non, puisque Louis Hachette, qui était dans la page 1 de ma chronique, revient page 4 et il donne 2400 francs par an, la moitié pour lui, l'autre pour les filles. Alors où est-ce qu'il travaille? Il travaille.
Excusez-moi, donc la moitié pour lui et l'autre pour les deux femmes.
Ouais.
Ok, donc ouais. Elles sont quand même
moins. Ah oui, c'est injuste. Hein. Bah oui,
c'est
comme ça, mais c'est Littré, il peut tout se faire. Alors Littré, il travaille à la campagne parce que c'est calme. Alors qu'à Paris, c'est terrible. À la campagne, il a un rossignol familier qui chante tout le temps. Et alors, en gros, il travaille tous les jours de 8h du matin à 3h du matin. Son lit est collé à son bureau. Son assiduité est incroyable. Et puis, il accepte encore plus de travail. Il écrit dans un journal où il s'est engagé. Et la badaboum, son maître, Auguste Comte, meurt. La veuve veut qu'il écrive quelque chose sur lui. Il ne peut pas refuser. Alors, il dit oui, cet idiot. Hein, il dit oui, là, ça aurait dû être la troisième lecture, mais là, on n'a pas le temps.
Bah, parce que là, pourquoi elle est très très longue?
Elle est un peu longue. Ah. Bon, alors si, troisième lecture,
allez.
Auguste Comte, Emmanuel, si vous voulez bien.
Je jugeais qu'il me faudrait à peu près un an pour cette composition, et l'exécution n'infligea point de démenti à mon évaluation. Quant à l'impression qui dura environ autant, elle ne m'inquiétait pas. Car la correction des épreuves appartenait, comme je l'ai dit, à mes matinées, y ajouter celle-là n'était pas assez onéreux pour déranger mon temps. À la mise en train de l'œuvre elle-même, j'hésitais entre deux parties. Ou bien interrompre pendant une année la refonte de mon dictionnaire, j'étais assez en avance du côté de l'imprimerie pour qu'elle me laissât ce délai et ne vint pas trop tôt me talonner de réchef. Ou bien me borner à diminuer quelque peu les heureux attribués au dictionnaire et prendre sur ce retranchement l'avis d'Auguste Comte. Heureusement, je m'arrêtais à ce dernier parti, l'autre aurait été désastreux.
Merci beaucoup, voilà, il fait tout en même temps. Et alors là, je vais vous dire quelque chose de très triste. Hachette meurt avant la fin, en 1864. Hachette meurt en 1872. Le dictionnaire paraît enfin. Littré va avoir 72 ans et là il se dit ça va jamais marcher. C'est trop gros, c'est trop cher, c'est trop érudit. Personne va l'acheter, c'est un succès fou, rupture de stock, réimpression, succès même à l'étranger. Compliments d'Angleterre. Et à la fin de sa vie, il est malade. malade, il en peut plus, il a envie de mourir tellement il en peut plus dans ça. D'ailleurs, c'est moi qui l'imagine parce que c'est pas du tout écrit dans le texte. Et même au seuil de sa vie, il continue à prendre des notes et tout ça parce qu'il se dit, si j'ai des successeurs en cas de deuxième édition, je veux qu'ils aient mes notes pour les aider. Ce dictionnaire aura mis 13 ans et 2 mois à être fabriqué. Si ça tenait que sur une seule colonne, ça ferait 37 525,28 mètres de long. Et juste, je termine sur deux devinettes, des définitions du littré. Qu'est-ce que ça veut dire cultridenté?
Bah, cultridenté, quoi.
Bah, exactement, voilà. Ça veut dire qu'il y a
les dents, au sens pratique,
qui a les dents en forme de couteau. Voilà. Yeah. Et alors, une définition de camélopard.
Camélopard.
C'est un animal que vous connaissez bien.
Caméléon et léopard.
Ça vient de camel, chameau, et léopard, léopard.
C'est un chameau-léopard. Le fameux chameau-léopard qui est
une girafe. Oh, bravo, oh, Tania.
Ça s'applaudit.
Bravo, merci. Bravo. Comment j'ai fait mon dictionnaire d'Émile Littré dans la charmante petite collection des éditions du Sonneur à lire. Vraiment, c'est passionnant.
Merci beaucoup, Eva Bester. Merci, Isem, pour cette lecture magnifique.
Merci.
Merci Emmanuel Finkiel pour la lecture aussi. Et puis merci Elodie Maillot, merci Yasmina Bendekaï.
Merci Tania.